Banyangi.
Bonjour et merci de nous rester fidèles. Voici l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous de la mi-journée de ce lundi 30 décembre. Comparution en audience publique ce lundi à Bubanza des journalistes du groupe de presse Iwachu en compagnie de leurs avocats. Oben Yonguru, notre envoyé spécial, nous en dira plus. La Chambre haute du Parlement burundais a approuvé ce lundi le nouveau président de la Cour anticorruption à la personne de Désiré Nitunga. Plus de précisions dans cette édition avec Gérard Nibigira. Pénurie de ciment, le sac de 50 kg là où on en trouve, se vend entre 28 et 30 000 francs burundais. Et dans l'émission publique de jeudi, le président burundais a qualifié de malfaiteur tout spéculateur du ciment Bousseko. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayou.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Bonjour, page justice est pour débuter cette édition. Approbation ce lundi par le Sénat burundais du nouveau président de la Cour anticorruption, à savoir Désiré Nitunga et deux membres de cette cour, c'est Maître Annick Mutoniwabo et Rose Nkorerimana. Autre approbation, c'est la candidature du nouveau procureur de la République en province Rutana en la personne de Niyungeko Leonidas. Plus de précisions avec Gérard Nibigira.
Tous les 38 sénateurs présents ont approuvé la candidature du nouveau président de la Cour anticorruption, Dinodo Nitunga Désiré. Il est Hutu d'Okayanza et travaille au service des titres fonciers. Les mêmes sénateurs ont aussi approuvé le nom de Mutoniwabo Annick comme juge à la Cour anticorruption. Il est Tutsi et travaille à la commission Terre et autres biens. Ils ont en outre approuvé la candidature du nouveau procureur de la République à Rutana, Dinodo Niyungeko Leonidas, à Hutu qui travaille au parquet de Rutana. Cela étant, Nkorerimana Rose, Hutu d'Okarusi et juge, a été approuvé comme juge à la Cour suprême à 35 voix et 3 abstentions. C'est la deuxième fois que sa candidature arrive au Sénat, du moment que la fois dernière, il a été rejeté car il était accusé de certains manquements au service. Cependant, la ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, a indiqué que des enquêtes menées ont prouvé qu'elle n'avait aucune faute de service. Après donc, quand Sénat sénateur de la composante sociale des Batois, Ruhuna Gedeo, a réclamé l'inclusion des Batois dans la magistrature. Le président du Sénat, Révérien Dikulio, a demandé à la ministre de la Justice d'embaucher deux Batois lors du prochain recrutement pour qu'ils soient préparés aux hautes fonctions de la magistrature. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro.
En page politique, le parti UPD Zigamibanga participera aux prochaines élections en solo et non en coalition. Déclaration d'Abdoul Kassim, président de ce parti, a également confié la candidature aux élections présidentielles de 2020. Cet homme politique ne demande que le respect du code de conduite aux élections de 2020 fraîchement adopté en province Kayanza afin que ces échéances électorales se déroulent dans de bonnes conditions. Suivez-le au micro d'Elinibel Nibigira.
Les membres du parti ont fait confiance à notre personne. Nous sommes confiants que les élections seront des élections crédibles, que nous allons participer.
Kassim Abdoul, candidat au présidentiel qui s'annonce très prochainement, où faut-il mettre l'accent?
Nous pensons que la première chose est de rassurer la population. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des rumeurs ou des désinformations, les gens sont alertés. Ils peuvent même arriver à fuir. Nous pensons qu'il faut d'abord, c'est ça où il faut mettre le point, rassurer la population, que chacun se sente vraiment en sécurité. C'est vrai, dans le pays, il y a la paix et la sécurité, mais il faut que chacun maintenant s'en approprie. Parce que lorsque les gens peuvent être emportés par les rumeurs, vous comprenez que même leurs projets de développement ne peuvent pas tenir. Ensuite, c'est qu'on doit chercher à ce que notre pays soit un pays qui se lance sur le développement à l'instar des autres pays de la région ou du monde. Et dans un pays comme le nôtre, il faut que les richesses nationales soient partagées entre toutes les couches de la population. Je crois qu'il faut maintenant réorienter la politique économique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a plus de consommateurs que de producteurs. Il faudrait aussi alors ramener tout le monde à être des producteurs. Lorsque la production, vous avez une grande production, alors là, on peut s'industrialiser et là aussi, on peut exporter.
Le parti UPD Zigamibanga va-t-il participer aux élections en solo ou en coalition?
Le parti UPD Zigamibanga va participer en solo parce que les coalitions sont décidées par les congrès. On n'a pas parlé de coalition dans notre congrès. On ne va pas convoquer à notre congrès d'ici peu. Nous allons participer en solo et nous allons présenter à la population notre propre programme tel que nous l'avons adopté dans ce congrès de ce samedi le 28. Ce que nous, on demande à tous les responsables politiques, tous les acteurs politiques, y compris l'administration, nous avons signé un code de conduite. Et nous pensons qu'il faudrait que tous les politiciens et tous nos militants s'approprient de ce code de conduite.
Kassim Abdoul, c'est le président du parti UPD Zigamibanga. Toujours en page politique, plus de 17 000 Burundais se sont fait enregistrer provisoirement au cours de l'enrôlement partiel du 9 au 12 décembre courant. Une activité couplée avec l'affichage des listes des électeurs dans une conférence de presse de ce lundi. Pierre Claver Kazihi a précisé qu'au cours de cette activité, plus de 26 000 corrections de candidats électeurs ont été faites et plus de 63 000 demandes de transfert ont été opérées. Suivez-le.
Concernant les résultats de ces activités-là, nous avons pu enregistrer 117 863 nouveaux candidats électeurs, parmi lesquels nous avons 52 343 femmes et 65 520 hommes. Si nous comparons avec ce qui était déjà sur les listes électorales provisoires, c'est-à-dire 5 742 personnes, et les nouveaux inscrits s'élèvent, n'est-ce pas, à 2,35%. Nous avons constaté effectivement que ce sont les zones qui accueillent les rapatriés qui ont le plus de nouveaux inscrits, c'est-à-dire les provinces périphériques au Burundi. On a eu quelques petits problèmes à Karusi, des tentatives pour pouvoir obtenir une deuxième inscription. Ces personnes ont été sanctionnées conformément, n'est-ce pas, à la loi. Concernant l'affichage des listes électorales, c'était une occasion donnée aussi pour pouvoir vérifier si les noms étaient inscrits correctement, si toutes les personnes qui avaient sollicité l'inscription avaient bien leur nom sur les listes. Alors, au total, nous avons pu, n'est-ce pas, remettre sur la liste électorale, donc les omissions, 2768 personnes. Concernant les corrections, nous avons pu aussi corriger, soit les noms, les prénoms, enfin l'identité complète du candidat électeur, 26 011 personnes. Et il y a eu également les radiations qui s'élèvent à 1727. C'est un chiffre assez élevé que l'on doit d'abord bien analyser. Nous avons enregistré 63 013 demandes de transfert et nous allons pouvoir analyser ces transferts-là. Au total, nous dirons que les activités d'enrôlement partiel et d'affichage des listes électorales, ces deux activités se sont passées comme il faut. Nous attendons maintenant de pouvoir analyser ces résultats-là, les intégrer à notre base de données et pouvoir produire la liste électorale définitive.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que leur chauffeur ont comparu en audience publique ce lundi. Le chauffeur Adolphe Masabarakiza a bénéficié de la libération conditionnelle, tandis que les quatre journalistes, dont Christine Agnès et J.D. Terrence, sont toujours détenus à la prison de Bubanza. Depuis le 22 octobre dernier, ils ont été arrêtés alors qu'ils étaient en reportage dans la commune Musigati, en province de Bubanza, après l'attaque d'un groupe de malfaiteurs. Selon la police, ils sont entre autres accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Eh bien, notre envoyé spécial en province Bubanza, c'est Oban Nyonguru. Il vient d'être rejoint au téléphone par Placide Nyomungere.
Les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que le chauffeur de ce médium ont comparu devant le tribunal de grande instance de Bubanza. Le ministère public a annoncé qu'ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est justement après l'attaque qui a eu lieu à Musigati, c'était le 22 octobre dernier. Ces journalistes ainsi que leurs avocats ont essayé de montrer qu'ils ne faisaient que ce qui leur est autorisé par la loi, notamment la loi régissant la presse au Burundi, la constitution burundaise ainsi que des textes internationaux que le Burundi a ratifiés, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère public a dit qu'ils ne sont pas poursuivis comme des journalistes, mais comme des citoyens qui ont participé, qui ont aidé ce groupe rebelle. Pour le moment, le débat est centré sur un message qui est dans le téléphone de Agnès Ndourou Boussa.
Quel était exactement le contenu de ce message?
Ouais, dans ce message, Agnès échangeait avec un autre collègue journaliste et qu'elle se rendait pour enquêter sur ce qui se passait à Bubanza. Donc, le ministère public m'a dit que se rendait à Mosigati pour aider ce groupe rebelle. D'ailleurs, cette qualification de groupe rebelle, c'est le ministère public qui l'a déclaré. Il s'agit bien d'un groupe rebelle.
Que disent les quatre journalistes par rapport à ce message?
Oui, par rapport à ce message, les quatre journalistes ont essayé de montrer leur innocence. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être coupables d'un message privé. Entre collègues, ils ont dit qu'ils ignorent ce message, ils ignorent les conversations que les collègues ou autres amis échangent dans ce qu'on appelle inbox et dans leur boîte de communication. Et d'ailleurs, pour le chauffeur Adolphe Massabarakiza, il a bien expliqué que lui se présentait au travail pour conduire toute personne là où il va faire son travail. Et il a bien montré qu'il ne peut pas lire et il ne peut pas entrer dans la vie privée de chacun. Alors, les débats se tournent autour de tout cela pour le moment.
À la barre, comment se portent ces quatre journalistes?
Ces quatre journalistes sont tranquilles. Chacun a eu le temps de dire tout ce qu'il sait sur son travail.
Et pour rappel, ces journalistes sont Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Manirakiza. Je vous l'avais annoncé en titre, il s'observe une pénurie de ciment de type Bousseco dans différents coins de vente des quartiers nord de la capitale économique Bujumbura. Certains commerçants disent qu'un sac de 50 kg se vend entre 28 000 et 30 000 francs burundais pour ceux qui ont la chance d'en trouver. Et dans la conférence publique de jeudi, le numéro 1 burundais a qualifié de malfaiteur les commerçants du ciment de l'entreprise Bousseco à le vendant un prix dépassant 24 500 francs en burundais. Le président burundais a dénoncé ceux qui passent outre le prix officiel et aux responsables de les punir. Pierre Nkurunziza a également indiqué que l'État burundais a octroyé des facilités à cette entreprise afin de rehausser sa production et vendre sur le marché régional. Suivez-le dans la traduction française de Charles Makote.
Cette usine qui est en train de bien fonctionner et en plus, l'État leur a octroyé plusieurs avantages pour que le ciment soit disponible à faible coût y égard au ciment importé. L'entreprise travaille d'une façon satisfaisante et met le produit sur le marché, mais ce sont les grossistes qui spéculent. Les prix sont connus au niveau du ministère et sont toujours rapportés, mais une fois sur le marché, le sac qui coûte 24 500 francs est vendu à 30 voire 32 000. Ces gens sont à combattre car ils se rebellent contre l'État. C'est un travail de nous tous. Dénoncer les auteurs de cette spéculation là où on l'observe pour que les institutions concernées puissent traiter ces gens comme des malfaiteurs car ils veulent trop de bénéfices qu'ils soient punis et que les gens du secteur de commercialisation du ciment soient des personnes honnêtes qui respectent les lois du pays. Sinon, jusqu'aujourd'hui, l'usine Bousseco n'est pas encore arrivée à produire la quantité de ciment dont le pays a besoin. Toutefois, l'entreprise a sollicité certains avantages qui permettront de rehausser la production afin de satisfaire le marché local et vendre dans la région. Ce que nous avons fait, bientôt, l'entreprise va accroître sa production.
Le président burundais Pierre Nkurunziza en conférence publique jeudi en province Gitega. Parlons santé à présent. Plus de 30 personnes souffrant d'insuffisance rénale aiguë qui se font soigner à l'hôpital Prince-Régent Charles demandent d'être assistées en médicaments. Ils expliquent que ça fait un bon bout de temps qu'ils ne sont pas reçus alors qu'ils sont soignés sur base de bons. Florence Caneza, présidente de l'association pour l'accompagnement des dialysés des insuffisants rénaux, a dit en sigle, dit que ça fait presque deux semaines que l'hôpital ne disposait pas de réactifs pour dialyser ses malades et demande à l'État de prendre cette question en main. Le point avec Aimé Richard Niunguru.
Mais nous l'entrons comme ça et nous mourons chaque jour.
Celui-ci est l'un des diabétiques qui souffre déjà de l'insuffisance rénale à l'étape aiguë qui se font soigner à l'hôpital Prince Régent Charles sous la prise en charge du ministère ayant la solidarité dans ses attributions et disent qu'ils ne sont pas reçus à cet hôpital alors qu'ils présentent des bons soins et jettent le tort à cette institution sanitaire.
D'abord, c'est la direction du Prince Régent, puis c'est le responsable des malades qui se trouvent ici. D'abord, c'est un hôpital de l'État à 100%. Il devait dire au ministère ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité pour qu'ils nous soignent. Comme d'autres malades, l'hôpital n'est pas fermé. Il y a ceux qui se trouvent à l'hôpital qui sont en train d'être soignés. Mais nous, nous l'entrons comme ça et nous mourons chaque jour, puisque c'est une maladie très grave. On ne fait pas de dialyse, on ne passe pas des jours sans mourir.
Ces patients demandent d'être assistés à médicaments car, disent-ils, leur vie est en danger.
Par exemple, moi, on a fait la dialyse mardi avec un bon. Et ce bon doit couvrir 2 jours par semaine. Alors, on savait bien que je devais être sur la dialyse hier vendredi. Bon, on nous a dit non. Vous rentrez, vous reviendrez demain. Est-ce que l'hôpital ne sait pas que une personne peut succomber après quelques jours, après X jours? L'hôpital le sait. Alors, c'est à qui de répondre?
Au sein de l'association pour l'accompagnement des dialysés et des insuffisants rénaux, à dire en sigle, Florence Canesa, représentante légale de cette association, affirme que ça fait déjà plus de 2 semaines que cet hôpital ne dispose pas de réactifs pour dialyser ses malades et demande à l'État et à ses partenaires de prendre cette question en main pour l'amour de ses citoyens.
Je suis au courant de cette situation. Ça fait de cela 2 semaines que l'hôpital Prince Jean Charles n'a pas de réactifs pour faire la dialyse des malades, pour dialyser les malades. Moi, je demande à tout intervenant dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le ministère de la Solidarité, de s'asseoir ensemble afin qu'ils puissent trouver une solution durable pour que l'hôpital Prince Jean Charles puisse procurer des réactifs.
Contacté à ce sujet au sein de la direction de l'hôpital Prince Régent Charles, Dr Inès Roseline Louimana, numéro 1 de cet établissement sanitaire, nous a renvoyé au ministère de la Santé et de lutte contre le sida.
Et sur ce, au ministère burundais de la Santé publique, l'on informe être au courant de la situation et l'on tranquillise les malades, que les consommables sont disponibles et les patients sont appelés à retourner à cet hôpital Prince Régent Charles pour bénéficier des soins. Les représentants de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels, COSESONA en sigle, en province Rumonge, et les enseignants divergent sur la nécessité de la mise en place d'une telle coalition et la provenance des fonds de son fonctionnement. Pour certains enseignants, leur syndicat serait politisé. D'autres dénoncent les décisions leur prises sans consultation préalable. Dans une réunion de dimanche à Rumonge, Gidenio Saba, représentant provincial de cette coalition, a appelé plutôt les enseignants à ne pas s'opposer à cette solidarité. Une information que nous devons à notre correspondant province Rumonge, Jean-Pierre Misago.
Radio Isanganiro, chronique sport.
C'est l'arbitre central qui prend la dernière décision lorsqu'il y a mésentente avec ses assistants lors d'une faute commise dans le jeu de football. Explication du président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football, FFB. Lorsqu'un arbitre ne respecte pas les règles régissant le football, Jean-Claude Niongabo fait savoir qu'il est sanctionné conformément à la loi. Les détails, c'est dans cette chronique sportive signée Marie-Claire Cazenez.
Le football est un sport qui est arbitré par 4 arbitres où chacun a des fonctions différentes. C'est l'explication de Jean-Claude Niongabo, président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football, FFP.
On a un arbitre central qui est épaulé dans ses tâches par 2 arbitres assistants qui sont de part et d'autre du terrain. Il y a aussi un 4e arbitre dont le rôle est de suppléer l'un des 3 officiels, donc au cas où il y aurait blessure ou au cas où il y aurait un empêchement. Mais aussi, il a un rôle administratif de pouvoir faire les remplacements au moment voulu. Chacun des 4 officiels a des rôles qui lui sont dévolus, des rôles qui sont assignés à chacun de ces 4 arbitres.
Lorsqu'il s'observe une faute non consensuelle entre l'arbitre central et ses assistants, Jean-Claude Niongabo fait savoir que c'est l'arbitre central qui a le dernier jugement.
Il y a des sanctions qui sont prises à l'encontre des arbitres qui ne se comportent pas bien dans le terrain. Il peut y avoir une mésentente due à l'écart d'interprétation des lois du jeu parmi les 3 officiels. Mais lorsqu'il y a confusion, lorsqu'il y a mésentente, ils doivent rapprocher leur point de vue dans un laps de temps. Je dois vous dire que c'est l'arbitre central qui a le dernier mot lorsqu'il y a confusion ou il y a mésentente.
Selon ce président de la commission chargée d'arbitrage à la FFB, un arbitre est sanctionné conformément à la loi lorsqu'il ne respecte pas les règles régissant le football.
Ce que nous demandons à un arbitre de football, c'est d'avoir la concentration maximale sur l'activité qu'il a à faire, donc sur l'arbitrage de football. Si maintenant la commission des arbitres de football remarquent qu'il y a certaines fautes qui sont commises par l'arbitre parce qu'il n'est pas suffisamment concentré, parce qu'il est à cheval dans les différentes disciplines. Donc on donne un conseil à l'arbitre, on lui dit « nous pensons que pour ton bien, il faut te concentrer parce qu'il va de son intérêt ». Si l'arbitre est bien et qu'il le fait sur une durée longue, vous comprenez que c'est un arbitre qui devient éligible pour devenir un arbitre international.
Jean-Claude Niongabo conseille les arbitres burundais d'être impartials dans leurs tâches car ils ont une grande contribution à la promotion du football burundais.
Point final à cette édition, mais vous retiendrez l'information à la une, c'est cette comparution en audience publique ce lundi à Bouanza des quatre journalistes du groupe de presse Iwacu en compagnie de leurs avocats. Une information sur laquelle nous reviendrons dans nos éditions de la soirée. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.
Mireille Kanyangi.